Voici les titres du journal.
Le Parking Day a lieu aujourd'hui à Vevey. L'idée est d'abandonner sa voiture pour diminuer les émissions de CO2 et retrouver une meilleure qualité de vie. Pour symboliser cette action, des places de parc sont occupées par des animations. La journée internationale à pied à l'école s'est aussi déroulée aujourd'hui, ce matin plus précisément en Suisse romande. L'occasion d'encourager les écoliers et leurs parents à utiliser le Petitbus. Titeuf est la nouvelle égérie de la campagne de prévention du TCS. Zep a facilement accepté d'y intégrer son personnage phare puisqu'il est sensible à la cause de la sécurité sur le chemin de l'école. Le CHUV se dit prêt à accueillir une nouvelle vague de patients atteints du coronavirus. Le centre hospitalier a présenté hier son bilan de premier afflux de patients et le dispositif qui a été préparé pour la suite. Question de parti, de sensibilité homme-femme ou divergence d'opinion. Il y a eu un clash cette semaine à Berne entre jeunes sénatrices vertes et sénateurs PLR. Précision dans ce journal. Et puis l'équipe de Suisse féminine de football renouera cet après-midi avec les éliminatoires de l'Euro 2022 en Croatie. Et à Champéry, le 49e trail des Dents du Midi aura bien lieu ce week-end, malgré la situation sanitaire.
Et pour la météo, le temps sera ensoleillé cet après-midi avec des cumulus qui vont bourgeonner sur les crêtes. Pour ce week-end, le ciel sera partagé entre de nombreux nuages et quelques éclaircies. La météo complète à la fin de ce journal. Votre journal de midi, c'est avec Sophie Esbora. Bonjour Sophie.
Bonjour. Le Parking Day a lieu pour la troisième fois à Vevey. Cet événement mondial a lieu chaque troisième week-end de septembre. La ville de la Riviera a choisi ce vendredi pour proposer des animations sur des places de parc. Le message est simple, les déplacements en voiture constituent une importante source d'émissions de CO2. Pour cette action, les véhicules sont donc remplacés par des animations. Je l'explique, vous êtes à Vevey. Quel est le programme aujourd'hui ?
Alors si on peut donner un thème au programme, c'est un peu l'appropriation de l'espace public. Ici, on a trois places de parc qui sont occupées. Alors il y a un atelier haïku, il y a un vélo bizarre, on va vous le présenter tout à l'heure, il y a un atelier badge, etc. Là, on est au milieu des voitures. On se trouve à l'avenue Paul Cérezol, à deux pas du lac, juste entre le lac et la gare. Je me trouve avec Mélissa Pestalozzi, l'une des co-organisatrices. Alors finalement, on est à Vevey, vous occupez des places de parking, c'est un message assez fort finalement, vous le décuplez, non ?
Oui, alors ben tout à fait. L'idée c'est de se rendre compte de la place d'une voiture en ville et puis de finalement si elle était pas là, qu'est-ce qu'on pourrait en faire ?
Il y a même un atelier de self-défense. Pourquoi en fait finalement c'est aussi une problématique s'approprier la rue en tant que femme, on peut dire ça ?
Oui, ben tout à fait. Le programme est un peu c'est fait à l'improviste, donc c'était pas une idée qui est issue d'une volonté, mais en fait on a fait appel à notre réseau pour trouver des bénévoles d'animation. Et puis, bah, on est arrivé avec ce programme d'autodéfense qui sera très drôle, je pense.
Finalement, ça tombe assez bien. Les messages sont assez clairs. Qu'est-ce qu'on dit, par exemple, dans l'atelier haïku ?
C'est des haïkus urbains, donc c'est des messages de la ville, c'est des inspirations, c'est un peu la contradiction ou le mélange entre la poésie et puis le côté peut-être ardu de la ville. Ou peut-être qu'il est questionné, en fait.
Alors, c'est très poétique, les voitures qui passent à côté. Merci beaucoup, Mélissa Pestalozzi. Je me tourne vers Jerry, qui est en train de prendre des photos. Alors, vous avez une installation ici. Bon, on ne pouvait pas y manquer, hein, un Parking Day, c'est un vélo. Mais parlez-moi de votre vélo. Vous êtes donc un artiste, vous êtes basé à Corzo, vous venez de Chèbre. Vous avez toujours des inventions un petit peu originales. C'est quoi ce vélo ?
Alors ça, bonjour, hein, pardon. Ça, c'est un vélo vent, c'est un vélo sans champignons, parce qu'il y a les vélos vent avec champignons, mais celui-ci, c'en est un sans.
C'est important d'avoir une action ici à Vevey pour un petit peu, on va pas dire combattre les voitures, mais disons montrer justement ce message du Parking Day.
Oui, je pense que c'est hyper important de pouvoir occuper un peu l'espace public une fois par année et puis pouvoir surtout montrer aux gens sur des places de parc avec des animations, des ateliers, des sirops, un peu des livres comme ça, de pouvoir montrer qu'on peut faire autre chose que des places de parc avec des voitures. Et avec le vélo, je pense que ça parle à tout le monde. Vevey, c'est une ville où il y a beaucoup de vélos, ça roule beaucoup et je pense que s'il y a une petite animation avec un vélo, ça peut que plaire aux grands et aux petits.
Toujours un petit peu des tensions aussi entre les vélos et les automobilistes. Alors on va faire une petite démonstration du vélo. Alors il est tout rouillé ce vélo, il doit dater des années 60. C'est un petit vélo blanc, il doit monter la selle pour pouvoir s'asseoir dessus. Et puis en pédalant, ça actionne une soufflerie que je vais vous faire écouter. Et il y a un tube qui s'envole. Je sais pas si c'était radiogénique, mais...
Pas des masses, mais ça laisse beaucoup de place à l'imagination. Merci Joël.
Merci.
La facture sociale était au menu principal de l'Assemblée Générale de l'Union des communes vaudoises. Plus de 200 représentants communaux étaient réunis à Savigny hier soir. Sans surprise, ils ont ratifié l'accord conclu fin août avec le canton. Celui-ci prévoit une baisse de participation financière des communes aux aides sociales. D'ici 2028, celle-ci représentera 36,7% des 1,8 milliard dépensés dans le canton contre 50% actuellement. Mais la rivalité entre l'Association des communes vaudoises et l'Union des communes vaudoises se poursuit. L'ADCV a tenu, elle aussi, son assemblée hier soir. Elle a décidé de rejeter cet accord. Les 52 communes représentées ont également accepté d'envoyer un courrier aux députés vaudois afin de les inciter à refuser ou amender le protocole d'accord signé entre le canton et l'UCV.
C'est la journée internationale à pied à l'école aujourd'hui.
Plusieurs événements ont été organisés en Suisse romande ce matin, notamment dans les communes de Martigny et Vouvry. Une façon d'encourager les enfants à utiliser le pédibus, mais pas seulement, comme l'explique Marie-Laure Obradovic, responsable des lignes pédibus de Vouvry.
Depuis le début de l'année, le pédibus a eu un petit peu plus de peine à redémarrer, parce que les enfants qu'on a eus l'année passée ont grandi et du coup ils font le chemin par eux-mêmes seuls. Du coup, cette journée va nous aider aussi à motiver d'autres parents, on l'espère, à faire partie du projet Pédibus.
Est-ce que le Pédibus sur l'année, c'est quelque chose qui marche, qui fonctionne, qui fait ses preuves ?
Oui. Toutes les semaines, on voit des gilets oranges arriver et repartir de l'école.
Même si la demande est forte, le fait que les parents doivent s'arranger entre eux pour rendre la tâche plus peut rendre la tâche plus compliquée, puisqu'il n'existe pas officiellement de règlement. On retrouve Marie-Laure Obradovic.
Il n'y a pas vraiment de règles spécifiques de comment organiser la ligne en soi. C'est le groupe de parents qui va dire « moi je suis dispo ce jour-là, moi aussi », et puis après ils partagent les heures en fait, de la journée. Et puis, mais voilà, le pédibus n'est pas automatiquement utilisé tous les jours de la semaine pour tous les trajets. C'est vraiment en fonction de la disponibilité de chacun. Mais voilà, ça reste quand même un tournus. Chacun fait quand même un trajet ou deux. Ça dépend vraiment de la disponibilité des gens.
Les écoliers de Vouvry ont eu l'occasion ce matin de rencontrer l'ancienne patineuse locale Anaïs Morand, marraine du pédibus. C'était un sujet signé Léa Journeau. Le Touring Club Suisse rappelle aux enfants de faire attention, d'ailleurs, sur le chemin de l'école. Et pour ce faire, l'association a choisi Titeuf. Le héros à la mèche indomptable donne des recommandations de sécurité sur une affiche destinée aux établissements scolaires. Son auteur, Zep, a accepté de prêter son crayon puisqu'il est sensible à la cause.
Ça fait partie des sujets qui m'intéressent parce qu'ils touchent directement l'enfance. Souvent, on me demande d'utiliser Titeuf pour transmettre un message qui est lié à la prévention, mais ça peut être à la prévention, par exemple, enfin, je l'ai fait plusieurs fois pour l'histoire de prédateurs sexuels, ça peut être des sujets qui sont des choses très lourdes et ça peut être des sujets qui sont des choses plus quotidiennes, comme ici, et je trouve que c'est... J'aime bien cette idée que Titeuf accompagne dans des sujets du quotidien. Pour moi, il y a une évidence parce que ça fait partie du quotidien du personnage aussi.
La police distribuera les affiches avec les messages de prévention lors de ses passages dans les classes. Elles sont également disponibles gratuitement pour les écoles sur le site internet du TCS. C'était un sujet signé Valérie Blom.
5000 francs pour encourager l'amélioration de la qualité de vie du patient.
C'est le montant qu'ont reçu hier soir les 5 finalistes du Challenge des Biopharm in Artis. Un concours dont c'est la 5e édition et qui mise sur l'innovation pour amener un peu plus de confort dans le quotidien des personnes atteintes dans leur santé ou leur mobilité, par exemple. Thierry Anty, bonjour.
Bonjour.
Avec votre compagne Marie Perbos, vous faites partie des chanceux qui ont été sélectionnés pour la seconde phase du concours. Votre projet s'adresse aux malades d'Alzheimer. Expliquez-nous ce qu'est Memories Matter.
Alors, Memories Matter, c'est un cadre digital intelligent pour le logement des personnes Alzheimer qui leur permet de renouer avec les souvenirs du passé au travers de contenus multimédia. Donc ça va leur permettre de travailler leur mémoire, de limiter les troubles du comportement qu'ils ont à certaines périodes de la journée, de les apaiser et de garder un lien avec leurs proches, surtout en ces périodes de confinement.
C'est un cadre dans lequel on peut mettre tout et n'importe quoi ?
Oui, on peut avoir des contenus comme des images, des vidéos, du texte. Et on verra encore si on peut mettre d'autres choses.
L'idée, c'est que ce contenu évolue au fil de la journée et par rapport aux participants, aux personnes elles-mêmes ?
Oui, ce sera vraiment du contenu qui sera personnalisé et par le proche, à distance, au travers d'une application.
D'accord. Comment vous est venue cette idée, l'idée de ce cadre ?
C'était en période de confinement, vu qu'on était tous à la maison, on s'est dit on aimerait se mettre un nouveau challenge pour notre couple. Et Marie, justement, ben, elle a eu son grand-père qui a souffert de l'Alzheimer. Il en a été énormément affecté. Ses capacités, elles se sont dégradées au fil du temps. Et elle aussi, elle en a été affectée. Donc là, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire. On a commencé une grosse recherche derrière, où on a eu des questionnaires qu'on a essayé d'envoyer à plus de 40 personnes. Donc c'est un sujet qui est assez sensible, finalement. Et on a continué des entretiens avec des proches, justement, qui souffraient un peu des mêmes problèmes. On est arrivé sur cette thématique et on a eu la chance d'avoir des témoignages d'experts et de personnels soignants en Valais, à Fribourg et Vaud, qui nous ont aidés, nous soutiennent justement dans cette démarche.
Vous avez une formation en gestion, votre compagne c'est en tourisme, ça n'a rien à voir avec la santé et pourtant vous vous êtes lancé là-dedans.
Oui, bon, c'est un sujet personnel qui nous touchait finalement et en fonction des interviews qu'on a eues, on a été vraiment, vraiment concerné par le problème de ces personnes qui touchent aussi leur entourage et finalement ce n'est pas un problème qui touche seulement ceux qui ont Alzheimer.
Votre cadre digital a donc été sélectionné alors que 120 projets ont été soumis au jury. Vous pensiez vraiment avoir des chances d'être parmi les 5 finalistes ?
Bon, honnêtement, on avait vraiment bien travaillé, donc on était contents du résultat, mais c'est vrai que ça fait plaisir d'être sélectionné, surtout qu'on est des jeunes, on a encore peu d'expérience dans le domaine, mais oui, non, c'est vraiment très très gratifiant.
Quelle va être la suite des événements avec les 5000 francs reçus hier ?
Bon, on pensait continuer les observations pour voir vraiment si notre projet permet d'améliorer cette qualité de vie du patient Alzheimer, développer le cadre, la partie hardware, la partie software, aussi l'application qui va tourner sur ce cadre et faire des tests.
Vous avez déjà un prototype ?
On est en train de le commencer. En tout cas, pour l'application, on a déjà un mock-up qui représente comment sera l'application, à quoi elle va ressembler. Mais il va nous manquer cette partie hardware derrière.
Bon, ben on sait ce qu'il vous reste à faire. On croise les doigts, le projet lauréat sera connu en décembre et il recevra 25 000 francs. Merci d'avoir été avec nous Thierry Antille et très bon après-midi.
Merci à vous, hein. Au revoir.
Le CHUV est prêt à faire face à une deuxième vague de Covid-19.
L'établissement hospitalier a tiré hier un bilan positif de la première vague de contamination au coronavirus, notamment en ce qui concerne la protection des collaborateurs. Une étude sérologique a montré que le personnel n'avait pas été plus contaminé que la population, même dans des secteurs exposés comme les soins intensifs. Aujourd'hui, le CHUV a repris une activité quasi normale. Le personnel soignant, fatigué, réclame toutefois un renforcement des effectifs. La direction se dit à l'écoute. Elle a notamment engagé plus de 80 jeunes infirmiers diplômés qui vont débuter leur activité cet automne. Philippe Eckert, directeur général du CHUV.
Les mesures que nous prenons actuellement et que nous avons prises au fond dès qu'on a passé la première vague sont effectivement de nature à permettre aux collaborateurs de se reposer. Et puis le deuxième point, c'est qu'avec cette augmentation maintenant des cas, nous réactivons en particulier nos systèmes de communication pour informer en temps réel les collaborateurs de la situation. Aujourd'hui, 23 patients au CHUV, dont 2 seulement aux soins intensifs. Ça veut dire qu'on a une augmentation par rapport à il y a un mois où on avait moins de 10 patients hospitalisés, mais des patients qui ne sont pas suffisamment graves pour aller aux soins intensifs.
Des secteurs de réserve sont également disponibles avec de quoi accueillir de nouveaux patients Covid. De plus, 14 lits sont immédiatement disponibles aux soins intensifs. Si la situation devait s'aggraver, le CHUV peut aussi compter sur les autres hôpitaux du canton et de Suisse. On retrouve Philippe Eckert.
On avait mis déjà en place à partir d'avril une coordination à la demande de l'autorité politique, de la CLAS, la Conférence latine des affaires sanitaires et sociales. Nous avons une coordination des unités de soins intensifs au niveau romand. Nous avons bien sûr une coordination habituelle au niveau du canton de Vaud. Et puis nous avons des contacts avec les grands hôpitaux alémaniques pour une coordination nationale si jamais le système romand était débordé.
Des propos recueillis par nos confrères de LFM. À noter que le personnel soignant appelle à une journée d'action le 28 octobre. Fatigué, il réclame notamment une hausse des effectifs et une revalorisation salariale. Le recensement de hérissons se poursuit jusqu'au 5 octobre dans les 4 communes valaisannes, parmi lesquelles Montet. Comme l'état de cette population était peu connu dans le canton, le service des forêts, des cours d'eau et du paysage a lancé en juin dernier l'action Hérissons y es-tu. Les premiers résultats montrent un contraste important entre les différentes zones urbaines et régions agricoles, mais plusieurs endroits restent encore à prospecter. Dès lors, des bénévoles sont encore recherchés pour relever durant 5 jours les traces de ces visiteurs nocturnes. La Suisse doit participer au renforcement de la sécurité aux frontières extérieures de l'espace Schengen. À l'instar du Conseil des États, le national a accepté hier par 108 voix contre 23 et 49 abstentions un projet visant à introduire un nouveau système d'autorisation de voyage. Cette autorisation devrait être remplie en ligne par les ressortissants d'États tiers, exemptés de l'obligation de visa, qui souhaitent se rendre dans l'espace Schengen pour un court séjour, à l'image de l'ESTA aux États-Unis.
La Chambre des cantons a été le théâtre de vives tensions cette semaine.
Les interventions militantes des nouvelles jeunes sénatrices vertes heurtent-elles la junte masculine majoritaire au Conseil des États ? La question mérite d'être posée. Après le clash du début de semaine opposant la verte neuchâteloise Céline Vara au libéral radical vaudois Olivier Français. Y a-t-il conflit générationnel et sexiste à la Chambre des cantons ? Les explications de notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
C'était la fin d'après-midi au Conseil des États. Il y avait eu 5 heures qu'on débattait de lutte contre les pesticides. Il restait à se déterminer sur 2 initiatives populaires que défendent les élus vertes en français. C'est le brouhaha, ces messieurs se sont levés, parlent fort. Adèle Torrent joue l'ironie en remerciant l'auditoire absolument pas attentif de son attention. Les Amazones tentent de recadrer le débat en insistant. Merci de votre attention. Puis Céline Vara n'y va pas avec le dos de la cuillère en affirmant que, je la cite, « dans nos rivières, nos campagnes, nous semons la mort », plaçant les décideurs politiques derrière le « nous ». Le PLR Olivier Français dénonce alors, je le cite, « une agression à l'égard de nos pères et de s'insurger. Votre ton agressif m'indispose ». En coulisses, l'incident a fait jaser. Est-ce que la majorité masculine quinquagénaire du Conseil des États a un problème avec les jeunes élus vertes ? Céline Vara.
Il faut quand même rappeler que cette chambre, elle a une moyenne d'âge de 55 ans. Le groupe des Verts, à majorité féminine, très jeune. Hein. On a une moyenne d'âge de 42 ans seulement, très minoritaire. Et dans ce contexte-là, peut-être qu'il y a parfois un conflit générationnel. Peut-être que parfois, effectivement, il y a cet effet femme. Peut-être que parfois, il y a cet effet roman aussi. Est-ce que mes collègues suisses-allemands nous écoutent moins parce qu'on parle en français ? C'est aussi possible. Est-ce qu'ils ont l'impression qu'on parle plus ?
Heurtés, dérangés par ces jeunes élus vertes, les sénateurs masculins, est-ce leur mission d'être les gardiens du temple, Olivier Français ?
Elles font ce qu'elles veulent, c'est pas mon problème. Madame Vara, comme d'autres, à droite comme à gauche, ils veulent utiliser un type d'expression qui n'est pas celui qui est l'usage de la Chambre des cantons. Pour moi, ça ne m'indispose pas, c'est pas un problème pour moi. Par contre, sur le fond, quand font des attaques sur les élus qui ont pris des décisions du passé sur la base de recommandations faites par des scientifiques qui, à l'époque, n'avaient pas toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui, mais ça, je ne peux pas l'accepter.
Le clash du débat sur les pesticides n'était pas le premier accroc générationnel et sexiste au Conseil des États.
Le Conseil fédéral veut donner un nouvel élan au développement d'approches novatrices dans l'administration fédérale. Il s'agit notamment d'offrir aux jeunes talents issus de hautes écoles et d'entreprises davantage de possibilités de participer à des projets importants en tant qu'experts externes et d'y apporter leurs idées. À l'interne, le transfert des connaissances doit aussi revêtir de nouvelles formes, plus dynamiques et être renforcé grâce au recours à des instruments adéquats, selon ce qu'écrit le gouvernement dans un rapport publié en réponse à un postulat. À l'étranger maintenant, le corps de 4 migrants qui tentaient de regagner l'Europe à bord d'une embarcation de fortune ont été repêchés au large de Mostaganem en Algérie. 5 autres personnes ont pu être sauvées après le naufrage de leur embarcation. Celle-ci avait chaviré à 90 km au large des côtes algériennes, a indiqué hier l'agence de presse APS. Plusieurs centaines de pèlerins juifs ont rebroussé chemin. Coincés depuis des jours du côté bélarusse de la frontière avec l'Ukraine à cause de restrictions dues au nouveau coronavirus, ils ont dû renoncer à leur pèlerinage en territoire ukrainien. Et puis la Turquie doit poursuivre les membres de ses unités alliées dans le nord de la Syrie qui pourraient avoir perpétré des crimes de guerre. C'est la demande formulée par l'ONU aujourd'hui qui veut aussi que des investigations indépendantes soient menées. Les meurtres, enlèvements et acheminements illégaux de détenus sont en augmentation depuis quelques mois, sans parler morts et blessés de civils occasionnés par des engins explosifs improvisés dans les zones contrôlées par la Turquie et des groupes armés qui la soutiennent. En football, l'équipe de Suisse féminine lance à son tour son année 2020. Quelques jours après leurs homologues masculins, les joueuses helvétiques repartent à l'assaut de l'Euro 2022. Elles se rendent ce soir en Croatie pour tenter de repartir du bon pied dans le groupe H des éliminatoires. Leur bilan avant ce duel, 4 matchs, 4 victoires et aucun but encaissé. Sur cette dernière statistique, l'expérimentée gardienne fribourgeoise Gaëlle Thalmann a joué un grand rôle.
Ça fait toujours plaisir de ne pas prendre de but, c'est clair. Après, ce n'est pas seulement moi, c'est tout un travail d'équipe. C'est les 11 joueuses qui sont sur le terrain, qui participent à l'effort défensif. Mais c'est clair que s'il y a la victoire au bout, ne pas prendre de but, c'est encore mieux.
Des propos recueillis par nos confrères de Radio Fribourg. Après cette rencontre en Croatie prévue à 17h30, l'équipe de Suisse féminine accueillera la Belgique mardi prochain à Thun.
À Champéry, près de 400 personnes partiront demain à l'assaut du Tour des Dents du Midi.
Pour sa 49e édition, le Seven Summits Challenge affichera complet. Et ce sera notamment le cas sur la course Rennes, longue de 57 km. Les inscriptions ont en effet battu leur plein cette année. Malgré le contexte sanitaire, les amateurs de trail ont donc profité de l'occasion de pouvoir remettre un dossard. Mais dans un sport où les épreuves ont tendance à devenir de plus en plus longues et de plus en plus extrêmes, quel est l'avenir du trail des Dents du Midi? La réponse du président du comité d'organisation, Gilbert Caillébois, au micro de Julien Traxel.
Je pense qu'il y a une place pour des courses qui ont une tradition dans la région. Ce Tour des Dents date, la première épreuve c'était en 63 pour la reconnaissance, 64 pour la première compétition. Et je crois que c'est aussi ce qui plaît aux gens. C'est ce côté authentique, c'est ce côté local. Les gens découvrent les Dents du Midi et je crois qu'il y a une place pour ça. Et autant comme il y a une place pour un Swiss Peaks avec un 350 de montagne au lac en l'occurrence, ou le Montreux Trail qui a aussi un super parcours sur le Chablais Vaudois. Donc non, je crois qu'il y a une place pour ça. En tout cas, il y a pas de concurrence. Il y a plutôt une collaboration. On pourra toujours améliorer cette collaboration. Mais je crois vraiment qu'il y a de la place pour toutes ces épreuves et je m'en réjouis.
Mais c'est peut-être aussi votre travail, entre guillemets, en tant qu'organisateur, de rappeler que 57 km, ça reste quand même un sacré effort et que ce n'est pas facile.
Alors, effectivement, et en plus, un vrai 57 km, dans le sens où c'est montagne, il y a des passages techniques, il y a quand même passablement de dénivelés positifs et négatifs, puisqu'on parle de 3700 positifs et 3700 négatifs sur 57 kilos. Donc, ça reste quand même une grosse épreuve et on voit aussi, à travers le succès du relais et du 32 km, qu'il y a de la place pour ces épreuves un peu plus accessibles, qui sont moins réservées à des coureurs particuliers. Il y aura jamais 3000 personnes sur un 350 kilos comme le Swiss Peaks ou le Tour des Géants en Italie. Donc ça reste quand même des épreuves très spécifiques et je crois que ces 57 kilomètres justement, c'est peut-être la porte d'entrée aussi pour ces grandes épreuves. Ça reste un passage, c'est 60 kilomètres, c'est pour la moyenne plus de 9 heures de course en montagne et je crois que ça a toute sa place même si c'est pas si simple que ça de faire le Tour des Dents.
Et pour cette 49e édition du Trail des Dents du Midi, le premier départ sera donné demain matin à 6h à Champéry.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec Ecosolus, votre partenaire régional pour installation photovoltaïque et rénovation thermique de bâtiments. Eco-solus.ch.
Le temps sera ensoleillé cet après-midi avec des cumulus qui vont bourgeonner en montagne. Une averse ou un orage ne sont pas exclus. Cet après-midi, il va faire au maximum 27 degrés en pleine, 22 à 1000 mètres. Pour ce week-end, le ciel sera partagé entre de nombreux nuages et quelques éclaircies. En Valais, les éclaircies seront plus nombreuses. Le risque d'averse ou d'orage sera déjà présent le matin, mais surtout marqué l'après-midi. Et en soirée, 24 degrés au maximum pour ce week-end en pleine, 20 degrés à 1000 mètres. La météo complète et à 6 jours, radiochablais.ch et notre application mobile Radio Chablais.